Bruxelles par une soirée de printemps presque comme les autres. Non loin de Selim Sasson, une foule de touristes se rend sur la grande place. La nuée ne parle que d'une chose, l'Atomium. La nouvelle star de la capitale est pourtant loin du cœur historique. Mais dans les esprits du moment, elle supplante les bâtiments séculaires bruxellois. Dommage, pense Sasson, pas forcément fan du modernisme galopant. Le monsieur cinéma de la RTBF regarde sa montre. Il est l'heure. Tout en pressant le pas, le journaliste s'allume une cigarette. Le festival de Cannes vient de se terminer. Alors qu'il est rentré depuis 72 heures, Sasson est encore fatigué. D'énormes cernes sous ses yeux peuvent en témoigner. Mais qu'importe, le repos, ce sera pour plus tard. Ce soir, il s'apprête à interviewer dans sa chambre d'hôtel une véritable star. Son nom ? Jacques Brel. Le chanteur qui a fait ses adieux à la scène il y a bien des années s'est lancé dans une carrière de cinéaste. La mayonnaise a pris et son dernier projet a été sélectionné à Cannes en compétition officielle, qui plus est. Tout juste de retour, Brel a accepté de donner à Sasson une entrevue exclusive. Sa parole est devenue rare, précieuse même. D'aucuns disent que le chanteur est épuisé, qu'une ombre, tapie dans l'obscurité d'une vie aux flamboyances extraordinaires, l'a prise en chasse. Toujours aussi libre et mordant, l'un des Belges les plus célèbres de l'histoire est rattrapé par la vie. Nous sommes le 30 mai 1973. Il est un peu plus de 18h et c'est l'heure H de mon histoire. Chambre feutrée aux fenêtres donnant sur le cœur battant de Bruxelles, Jacques Brel attend sagement que caméra et micro s'allument. Devant lui, deux paquets de cigarettes vides. Il attaque son troisième. Totalement accro au tabac et à sa fumée épaisse, le chanteur vient de rallumer une clope. Selim Sasson est toujours impressionné lorsqu'il rencontre le grand Jacques. Une gueule unique, une présence et un charisme absolument hors normes. L'artiste est un phénomène, un extraterrestre, dans un monde trop petit, trop froid pour lui. De retour à Bruxelles depuis quelques heures seulement, il semble exténué. Son costume gris et sa chemise noire ne participent pas à rehausser un teint un peu blafard. Brel s'est laissé pousser les cheveux. Le journaliste le trouve élégant avec cette tonsure qui lui descend quasiment jusqu'aux épaules. Sasson, pourtant, ne peut pas s'empêcher de penser que quelque chose déraille. La machine semble grippée. Le regard du chanteur, d'ordinaire si expressif, ne luit plus. Sous ses sourcils sombres, ses pupilles fatiguées ne donnent plus le change. Il faut dire que la star vient de vivre une terrible déception. À Cannes, son film Far West a fait un flop. Présenté le 22 mai sur la Croisette, pourtant porté par Lino Ventura à l'écran et coproduit par Lelouch, l'œuvre n'a pas convaincu. En lice, aux côtés des 23 autres longs-métrages, Far West s'est attiré une flopée de critiques négatives de la part du jury. Les remarques bienveillantes de la présidente, l'actrice Ingrid Bergman, n'y ont rien changé. Brel s'est pris un coup de pied au derrière. Et la presse s'en est donné à cœur joie contre l'artiste. Le monsieur ciné de la RTBF a tout de même voulu l'interviewer pour son émission Le Carousel aux images. Non, pas pour lui faire une fleur, non, non. Mais parce que lui, son film, il l'a compris. Sa poésie, ses profondeurs, ce lien qui unit son travail au réalisateur. En s'installant, Selim Sasson perçoit que la star nationale n'est pas à l'aise. Alors, il décide de le mettre dans le bain progressivement, de lui rendre ce moment un peu plus confortable.
Bonsoir, bien Jacques Brel, vous êtes, dirais-je, le premier de nos oiseaux à revenir de Cannes. Alors je dois vous demander d'abord quelles ont été vos impressions là-bas, disons, pour l'ensemble du festival.
L'homme de presse refuse d'aborder trop vite le sujet qui fâche. Il ne va pas être déçu. Le chanteur met directement les pieds dans le plat.
Je n'ai rien vu. Je suis arrivé juste le soir où il y avait la
présentation. Et j'ai vu aucun film. La réponse n'est pas surprenante. L'artiste n'est pas un homme de showbiz. Il déteste cet univers de paillettes et de pression dans lequel il a baigné durant sa carrière de chanteur. C'est aussi pour ça qu'il a décroché. Alors se taper le tapis rouge, l'ambiance de la croisette et tout ce qui va avec, non, très peu pour lui, non. C'est pas son monde. Il doit pourtant composer avec. La soirée qu'il vient de vivre ne va certainement pas le faire changer d'avis. Lorsque le journaliste se risque à lui demander comment a été reçu Far West, Brel ne prend pas plus de gants.
Ah ben, il y a eu deux projections. Il y a eu une projection pour la critique, ça a été assez désastreux. Ça s'est très mal passé. Enfin, j'y étais pas, là, parce que c'est pas la peine. Et avec le public, ça s'est bien passé.
Désastreux, le mot est lâché. Et pour le coup, il n'est pas exagéré. En découvrant le second long-métrage de Brel, les membres du jury ont été tout à fait affects. Les retours ont été catastrophiques. Aucun des jurés ne semble avoir compris le message que le cinéaste a voulu faire passer. Le carrousel aux images arrive donc à point nommé. Sasson refuse de laisser passer cette première impression négative. Alors il demande à l'artiste de présenter lui-même son œuvre au public belge, qui va bientôt découvrir son travail dans les salles obscures.
C'est assez difficile à présenter parce que il s'agit d'un rêve. Et c'est un rêve qui essaie de dire ceci, enfin qui essaie de raconter ceci, c'est que quand on est petit, on a des rêves. On s'est dit que quand on sera grand, quand on aura les pattes de derrière qui vont pousser, on va vivre certaines choses. Puis c'est jamais ça qui arrive, évidemment. Moi, quand j'étais petit, avant la guerre, je lisais Buffalo Bill et je lisais Dick Carter. Et je me disais que quand je serai grand, j'irai au Far West où on rencontre des hommes fantastiques, des femmes fantastiques, et qu'il y a l'amitié, il y a tout ça.
Et braqué sur Jacques Brel, ses yeux s'illuminent à nouveau. Ce n'est pas la joie qui se glisse derrière ses paupières fatiguées. Sasson ne saurait dire si cela s'apparente à de la mélancolie ou de la nostalgie. Enfin, quoi qu'il en soit, le chanteur semble danser sur les fils de rasoir.
Et puis on s'aperçoit au travers de la vie que, enfin, en usant sa vie, que la plupart des gens donnent des priorités à la prudence, à la sécurité, à des choses comme ça. Et j'ai imaginé des personnages de 45 ans, c'est-à-dire moi, refusant cette prudence, refusant cette sécurité et essayant misérablement, de vivre une sorte de Far West avec tout ce que ça a comme lieu commun, parce que c'est là que ça devient drôle, en Belgique. C'est uniquement ça, c'est donc continuer l'enfance. Finalement, le bourgeois, c'est-à-dire l'homme assis, l'homme installé, est l'ennemi du rêve, je crois cela.
Le journaliste se demande bien comment le jury de Cannes a pu ne pas être bouleversé. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que l'homme assis là, dans son fauteuil, cigarette à la main, est un poète. Dans son film, Brel court après un monde qui n'existe plus. Une réalité fantasmée dans les bras doucereux de l'innocence et de ses jeunes années. Ce soir-là, Selim Sasson ne peut s'empêcher de voir chez l'artiste une forme de philosophie. L'interview se termine et le chanteur braque son regard vers ses pompes. Jacques Brel est un incompris. Il a un pied dans ce monde et un pied au dehors, depuis toujours. C'est aussi cela qui fait la beauté de son art, la force de ses mots, la conviction dans sa voix. Le grand Jacques, déjà, a marqué son temps. Mais après s'être retiré du monde de la chanson, l'artiste va quitter le cinéma, là de l'échec de son film et du côté acerbe des critiques. Quelque chose grince. La vie le rattrape. La fatigue chronique qui s'installe chez lui est loin d'être anodine. Son corps cherche à lui faire passer un message. Il est malade. Brel ne va pas tarder à le découvrir. Mais il sera trop tard. Octobre 1966. C'est à l'Olympia que tout bascule, dans la carrière et dans la vie de Jacques Brel. Les adieux sont bien souvent inopinés. Ils surprennent par leur immédiateté. Ils choquent autant qu'ils surprennent. Et à ce petit jeu, Jacques Brel va marquer de son empreinte l'histoire de la musique. Chez lui, rien n'est préparé, pas même sa sortie de scène. Après 15 ans de tours de chant, de triomphes et d'albums cultes, il est fatigué. Lassé de cette existence où les dorures sont devenues trop étouffantes. Et puis il s'ennuie. Les concerts ont revêtu les atours de l'habitude. Chez Brel, ce sentiment est mortifère. Alors ce 29 octobre 1966, alors que le public de l'Olympia s'égosille et applaudit chaleureusement la star, il décroche. Il annonce au micro que tout est terminé. Le rideau tombe sur une salle médusée. Certains spectateurs sont choqués, d'autres refusent d'y croire. Le ras-le-bol des artistes est un phénomène bien connu. Un trop-plein qui se traite dans le calme. Une pause avant un grand retour immuable. À la fin de ce concert extraordinaire, une bonne partie du public mise sur cette option. Mais ses fans se trompent.
C'est un au revoir.
C'est un... Ah non, non, je compte bien arrêter le tour de chant. Ah oui, ça oui. Au printemps prochain.
Vous allez continuer à écrire pourtant?
Ouais, je voudrais continuer à écrire des chansons, à faire des disques. Mais le tour de chant, je crois que c'est fini. Enfin, ça a été formidable. Alors je veux essayer d'autres choses, c'est ça. Je ne pars pas pour arrêter la chanson, c'est parce que j'ai terriblement envie de faire d'autres choses.
Les mots que Brel livre aux journalistes venus l'interroger à l'Olympia sont limpides et criants de sincérité.
Si je continue, je vais être obligé de tricher. Je vais être obligé de raconter encore une fois des chansons que j'ai écrites il y a 10 ans, de les reprendre autrement. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? Je vais vivre tranquillement, d'une manière établie, même si je ne chante qu'un petit peu, ça ne m'amuse pas. Tout ce qui n'est pas une bataille m'excite pas beaucoup. J'aime bien avoir peur, j'aime bien apprendre.
Cela semble inouï. Jacques Brel claque la porte au sommet de sa gloire. Si celles et ceux qui le connaissent mal sont totalement décontenancés par la nouvelle, ses proches savent que le moment était venu. L'artiste a besoin de se dépasser, de se sentir vivre pour exister véritablement.
Je veux pouvoir aller à 400 km quand je veux et y rester le temps que je veux. Je suis un nomade, moi je n'arrêterai jamais de bouger, il faut que je bouge. J'ai presque plus peur. Ouais.
Tu n'as plus peur de rien?
Presque non.
Tu n'as plus d'angoisse?
J'ai plus du tout peur de mourir, donc j'ai plus peur.
Et pourquoi tu n'as plus peur de mourir?
Bah, je sais pas.
C'est une humeur.
C'est un peu une humeur, ouais. J'ai plus peur de mourir.
Parce que tu as oublié ce qu'était la mort?
Non.
Ou alors tu es écœuré du monde?
Non.
Je comprends pas.
Je crois que je m'intéresse plus du tout. Ce qui m'intéresse, c'est faire des trucs, c'est rencontrer des gens, c'est des batailles. Mais je me vois là-dedans comme un outil. Je fais faire des trucs à Brel.
Ce premier adieu à la scène lui permet de vivre autre chose. Le cinéma, puis la voile, deviennent bientôt des passions dévorantes. Elles vont assouvir sa soif d'aventure. Pour un temps, Jacques Brel s'apprête à prendre la mer, à fuir un monde dont il ne veut plus. Mais l'ombre qui se glisse derrière lui ne va pas tarder à le rattraper et risque fort de mettre à mal ses rêves de voyage et de liberté.
J'ai une sacrée envie d'aller vivre dans un certain nombre de pays. Et je vais le faire. J'ai envie d'écrire des chansons un peu différemment de maintenant. Je serai incapable d'expliquer.
Parce qu'un poète ne découvre pas les pays sans y aller.
Je suis pas un poète, moi je fais des chansons.
Vous voulez devenir reporter, alors reporter de la chanson?
Non, je veux savoir si... Il y a des coins du monde, je me demande si les hommes n'ont pas peur à autre chose que nous. C'est ça qui m'intéresse, alors je vais essayer.
Pour comprendre le grand départ de Brel, la charnière entre les années 60 et 70 est fondatrice. S'il annonce sa volonté d'arrêter la scène à l'Olympia, il va tourner encore pour quelques dates. Il met un terme définitif à son iconique tour de chant en mai 1967 au casino de Roubaix. Rien ne le fait changer d'avis. Pas même la fièvre et les supplications de ses fans. Le grand Jacques dit stop. La scène, ce n'est pas la musique. Brel compte bien continuer à écrire, à se surpasser. Mais le poids des tournées est devenu impossible à supporter, à tolérer. Son nombre de galas dépasse les 300 par an. Pour, tenez-vous bien, près de 100 000 kilomètres passés sur les routes. C'est une pure folie pour un corps qui commence à envoyer des signaux inquiétants. Lui qui fut l'une des plus grandes stars francophones et mondiales de la chanson pendant 15 ans, va d'abord se chercher. Au cinéma et sur les planches, d'abord en tant qu'acteur et comédien. Mais cela ne lui suffit pas. Avec cet irrépressible besoin de découvrir de nouvelles choses, Brel émet le souhait de passer derrière la caméra.
Je crois que c'est venu... J'ai tourné un premier film tout à fait par hasard. Je pensais pas du tout faire tourner. Et puis c'est Kayat que j'ai envie de me chercher. Et ça s'est passé bizarrement à Marseille. Enfin, puis je suis ravi de l'avoir fait. J'ai dit oui comme ça. J'avais pas bien compris l'histoire qu'il me racontait. J'étais abruti, je sortais de scène. Puis j'ai dit oui à ce type qui avait l'air convaincant. Il est convaincant. Et je peux pas dire le soir du premier jour de tournage, mais enfin, avant la fin de la première semaine, je me suis dit, le côté passionnant, c'est la mise en scène. Et après, je me suis bien essayé d'un peu apprendre, quand même, il faut apprendre.
Bon, alors ici, vous...
C'était pas net comme ça, hein, mais enfin, l'idée m'en est venue tout de suite. Je sais pas bien. Je sais en tout cas que ce qui est le plus fatigant de tout, ce n'est pas d'être comédien, ce n'est pas d'être metteur en scène, ce n'est pas d'être le dialoguiste, parce qu'il y a des choses qui changent encore sur le plateau, c'est de sauter de l'un à l'autre. C'est ça qui est épuisant. Il faudrait pouvoir être un jour metteur en scène, un jour comédien, et un jour dialoguiste, enfin, ou scénariste. Alors j'y arrive avec un certain nombre de procédés techniques et une méthode de préparation. Le film a été très très préparé.
En 1971, Brel se jette donc dans le grand bain avec Franz, son premier long métrage. Cette expérience lui ouvre une nouvelle voie dans laquelle il s'engouffre. Il vit toujours l'amour du jeu en tant qu'acteur. Il est approché par Lelouch dans le cadre du film « L'aventure, c'est l'aventure ». Le chanteur y vit un rêve éveillé, lui qui partage l'écran avec un certain Lino Ventura. Brel rencontre sur le tournage Madly Bami, l'ancienne danseuse de Claude François. Elle est aussi enivrée par un désir de voyager et de se réinventer. C'est elle qui pousse le grand Jacques à aller au bout de ses rêves du moment. Leur idylle passionne la presse et le grand public. Mais de plus en plus, l'artiste s'éloigne des caméras et des processus de promotion. Ce silence exacerbé et peut-être ce qui lui coûte en partie le succès commercial de son deuxième film, Far West. La compétition officielle de Cannes le descend, et dans les salles de cinéma. Le public n'est pas au rendez-vous. Loin des yeux, loin du cœur, peut-être bien. Voilà déjà 7 ans que Jacques Brel a quitté la grande scène de la chanson. Le difficile retour sur Terre s'explique aussi parce que l'œuvre est certainement trop personnelle pour être comprise par le plus grand nombre. Jacques Brel est loin de ses considérations. Dans les quelques interviews qu'il donne à ce moment-là, l'artiste paraît différent. Sa verve habituelle est toujours présente, oui. Mais il semble exténué. Sa consommation de tabac ne cesse de grimper en flèche. Il évoque beaucoup l'opposition des rêves à une vie rangée dont il ne veut pas, comme si la monotonie était devenue son ennemi public numéro un, plus encore que durant sa carrière. Derrière les apparences, l'échec de son second film est une épreuve terrible à surmonter. Il quitte les plateaux et le 7e art en se persuadant d'une ineptie. Plus personne ne l'aime. Et puis, sa santé commence à se montrer plus fébrile. Dès 1973, Brel commence à tousser, beaucoup, et de manière un peu anormale. Il ne fait gare attention. À la fin des années 60, après avoir définitivement quitté les planches des théâtres et des salles de spectacle, il trouve refuge en Suisse, où il se lance dans une nouvelle passion dévorante, l'aviation. Jacques prend des cours de pilotage, happé par l'immensité du ciel et la tranquillité qu'on peut trouver sous les nuages. Personne ne croit qu'il va pousser le curseur au point de devenir pilote. Mais là encore, tout le monde se trompe. À Genève, il obtient son brevet à l'âge de 40 ans. Élève, comme les autres Jacques Brel ? Eh bien, aussi fou que cela puisse paraître, la réponse est oui. Sa soif de liberté et de découverte n'a absolument aucune limite. Et c'est tellement le cas que bientôt, la voûte céleste devient trop petite, elle aussi. Voilà qu'un autre projet prend le pas sur le reste. Faire le tour du monde sur un voilier. En février 1974, il achète un bateau. En juillet, voilà qu'il obtient son brevet. L'artiste est à l'aise partout, dans le ciel ou sur les eaux. Le tout, c'est d'être libre, vraiment libre. Son projet fou, il l'organise avec sa compagne Madly. Leur but, se laisser 3 ans pour faire le tour de la Terre. Jacques veut prendre le temps et se retrouver. Le couple l'ignore lorsqu'il quitte le port d'Anvers le 24 juillet, mais cette aventure sera la dernière. Un mal terrible ronge le chanteur. Bientôt, il ne pourra plus fuir. L'ombre, qui le guette depuis longtemps, s'apprête à se jeter sur lui et à emporter avec elle rêve et espoir. 20 octobre 1974. Depuis quelques mois, Brel navigue sur les flots en direction de l'océan Atlantique. L'impressionnant voilier de 42 tonnes pour 19 mètres de long est imperturbable contre les vagues légères qui secouent sa coque. Au large des îles Canaries, le bateau trône sur les embruns à la manière d'un roc. L'équipage, composé de Jacques Brel, de sa fille France et de Madly, a mis pied à terre. Une escale. Voilà qui leur fait le plus grand bien. Partir avec sa fille est pour le chanteur une expérience unique. Une occasion aussi de rattraper le temps perdu. Prochaine étape, la traversée de l'océan Atlantique. Tout un programme. Voilà pourquoi le trio doit profiter de cette parenthèse terrestre pour se préparer et se reposer. Mais cela ne va pas se passer comme prévu.